Testament qui nous est présenté à partir du chapitre 37 de la Genèse, Joseph. Joseph. Plus d'une dizaine de chapitres, presque un quart de la Genèse pour nous parler d'un seul personnage. Et ce personnage, il nous en est parlé dès le chapitre 37 au verset 2, de manière très étrange d'ailleurs, puisqu'il nous est dit « Voici la postérité de Jacob ». Et lorsque l'Ancien Testament commence de cette manière-là à mentionner une postérité, il le fait toujours dans l'ordre. Lorsque une postérité est annoncée, on prend le fils aîné, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième. Or, ce passage commence de manière très étrange. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Et Joseph, âgé de 17 ans, c'est-à-dire jeune homme, nahar, en hébreu. Très étrange de commencer une postérité par celui qui n'était pas l'aîné, mais qui est présenté comme le bien-aimé, le fils préféré. Une postérité qui commence avec un jeune homme qui va avoir une relation particulière dans sa famille, qui aura lui-même des enfants. Il nous est dit à la fin du livre de la Genèse que lorsque Jacob fut à la fin de sa vie, il fit approcher Joseph et ses deux fils, Éphraïm et Manassé, au chapitre 48. On annonça au chapitre 48 à Joseph que son père était malade, qu'il était sur le point de mourir, et donc il s'approcha de son père avec ses deux fils que Jacob avait sollicités. Et puis là, on assiste à une scène étrange de bénédiction. Ce Joseph qui est présenté comme la postérité de Jacob, finalement, n'aura pas de part avec la terre d'Israël. 12 fils, 12 tribus, mais pas de tribu de Joseph. Une tribu d'Éphraïm et Manassé, les deux enfants, les deux fils de Joseph. Et lors de la bénédiction, au chapitre 48, il est dit que Joseph fit approcher ses enfants d'Israël, et celui-ci leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux. Éphraïm, le passage qui suit, il faut le visualiser. Si on ne le visualise pas, on ne comprend pas la scène. Il est dit que Joseph les prit tous les deux. Éphraïm par la main droite à la gauche de son père et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël. Vous voyez la scène ? Et il y fait approcher de lui Israël, tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, c'est-à-dire qu'il fit un geste étrange, c'est qu'au lieu de poser sa main sur l'enfant qui était en face de lui, il va croiser son bras et toucher la tête de l'autre, et puis il va prendre sa main gauche et toucher celui qui est à droite. Geste étrange que Moïse va essayer de reprendre tout de suite, puisque Israël, qui savait bien ce qu'il faisait avec ses mains, a béni Joseph et dit que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom. C'est pour ça qu'ils sont part à l'héritage d'Israël, de Jacob, et du nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, donc qui était à gauche, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la mettre vers la tête de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête, à Manassé. » Et Jacob va dire, « Non, 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 non. Ce que je fais est juste. C'est vrai que Manassé sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira toutes les nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Une scène étrange qui n'est pas sans lien avec le début de la postérité de Jacob. Là où Jacob a une postérité, on devrait trouver tout de suite Judas, etc. Et puis apparaître dans la postérité Joseph, et au travers de Joseph, Éphraïm et Manassé. Et on s'aperçoit que le texte de la Genèse consacre 13 chapitres à Joseph, qui est un des enfants de Jacob, et qu'il met au centre comme le fils bien-aimé, le fils préféré. On ne peut pas lire cette histoire de Joseph sans la transposer de manière christologique en disant « Ce Joseph qui nous est présenté ici est un Joseph, est un personnage qui nous parle du Christ à venir. » Certains se sont intéressés à ce texte et ont retiré près de 150 parallèles entre la personnalité, le comportement, l'attitude de Joseph et le Christ lui-même. Je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas tous vérifiés, mais j'ai eu le bonheur de pouvoir assister, il y a 40 ans de cela, à une étude du président de l'Église apostolique d'Angleterre, le pasteur Bowen, et il nous en a cité quelques dizaines qui ont vraiment ouvert mes yeux sur ce passage de l'Écriture. Voici la postérité de Jacob, ce jeune homme de 17 ans. À la fin, on s'aperçoit qu'il n'est même pas dans l'héritage terrestre d'Israël, mais il est au travers de ses enfants dans cet héritage-là. J'ai envie de dire que on ne peut pas voir le royaume de Dieu de manière visible, où est sa frontière, où il commence, où il se termine, mais au travers des enfants qui sont nés au Père, au travers de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi montrer quel est l'héritage de Christ sur cette terre. Nous sommes l'héritage, les héritiers. En doutons-nous? Avons-nous cette identité? Suis-je héritier de Christ, comme Éphraïm et Manassé ont été les héritiers de leur père, Joseph? Lorsque Joseph apparaît dans ce récit au chapitre 37, il apparaît dans un contexte de crise familiale. De crise, une vraie crise familiale. Son père, Jacob, a aimé une jeune femme, Rachel, et en fait, lorsqu'il a voulu l'épouser, son oncle Laban, le frère de sa propre mère, Rebecca, l'a trompé en lui mettant dans son lit la nuit de noces la sœur de Rachel, Léa. Lorsque le récit commence, on est face à un jeune homme qui est le fils de la bien-aimée, de Rachel. Et dans un contexte de crise où la bien-aimée était stérile et celle qui était rejetée, voire haïe, était féconde, Léa. Et il y a, quand on lit les chapitres précédents, on a l'impression d'assister à une course entre les femmes pour gagner les faveurs de Jacob, voire les faveurs de Dieu. Rachel dira à un moment donné à Dieu, donne-moi une descendance ou fais-moi mourir. Face à l'amertume, à la tristesse de voir Léa enfantée, alors elle a mis dans le lit de son mari une servante, je ne sais plus si c'est Bila ou Zilpa, mais une servante. Et puis, Léa, voyant ça, a mis dans le lit de son mari une servante aussi. Chacune ont enfanté des enfants à Jacob, jusqu'au jour où Rachel est sortie de sa tristesse quand elle a enfanté Joseph. Joseph. Et elle a dit, l'Éternel a ajouté. Ou a rajouté à ce qui était mon déshonneur, ma tristesse, il a rajouté quelque chose de merveilleux. Joseph, c'est l'enfant de l'amour. C'est celui qui couvre la honte de Rachel. Il y aura un deuxième enfant de cette union entre Rachel et Jacob qui sera Benjamin. le fils de ma main droite, mon fils aussi préféré. Finalement, les deux fils, l'un par l'attitude du père envers lui et l'autre par le nom qu'il portait, étaient des enfants préférés. Hein ? Je me dis que Jacob, il a tout fait pour que ce soit la zone dans sa famille. Et que l'attitude des femmes n'est pas simplement liée au comportement des femmes, mais aussi à l'attitude de Jacob. Rappelez-vous, le trompeur, celui qui triche. Mais il a joué à ce jeu-là aussi dans sa famille. Mais on peut se dire, mais Joseph arrive dans une famille en crise, en situation difficile, avec des enfants de plusieurs lits, etc. Ah, ça nous rappelle notre époque, avec les unions, désunions, remariages, etc. Et la difficulté de construire des vies familiales équilibrées. On n'est pas loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça m'arrive souvent d'accompagner des femmes qui se trouvent dans des situations analogues, avec des difficultés à gérer la relation au mari, la relation aux enfants de la femme d'avant, etc., etc. Joseph est dans cette situation-là. Mais on pourrait se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans sa famille ? Il serait intéressant, si vous voulez voir et comprendre l'attitude et les choses qui se vivent au niveau des personnages dans la vie de Joseph, de sa famille, de remonter de un cran, deux crans, voire trois crans. Certains disent, mais Joseph est dans une famille dysfonctionnelle, avec beaucoup de souffrance, de mal-être. Mais son père est issu d'une famille aussi dysfonctionnelle ou en souffrance. Rappelez-vous Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham ? Il a épousé une très belle femme, Sarah, stérile, qui s'est dit, puisque Dieu a promis une descendance, eh bien je te donne ma servante Agar pour que tu lui fasses un enfant qui sera le mien. Sauf que quand l'enfant est né, sa servante a commencé à prendre des attitudes, à avoir des comportements qui ont déplu à Sarah. Donc il y a eu de l'amertume dans le cœur de Sarah. Et elle est tombée enceinte. Isaac est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah a demandé à Abraham de rejeter sa servante. Ils l'ont exclu. Ismaël est parti avec sa mère. Imaginez ce qui s'est passé dans le cœur d'Isaac. J'ai un grand frère. Je ne le connais pas. Oh, c'est un homme quasiment sauvage, mais en tout cas qui vit dans les grands espaces. C'est un homme qui a conquis aussi son espace de vie. Il a dû se poser des questions sur ce frère absent. Alors, quelque temps plus tard, quand il a eu lui-même deux fils, Jacob et Ésaü, il en a préféré un. Tout comme sa mère, Sarah, avait préféré la chair de sa chair et celle d'Abraham plutôt que la chair d'Abraham et d'Agar. De la même manière, Isaac a reporté son affection sur un fils qui aimait la nature, les espaces. Est-ce qu'il n'y a pas là une image de ce frère perdu ? Et sa mère, Rebecca, a fait comme Sarah. Elle a préféré Jacob. Et elle a tout fait. Elle aussi, par tromperie, en intriguant, pour que son fils soit lui aussi reconnu comme le préféré, puisse s'approprier le droit d'aînesse, comme Isaac, quelque part, a pris le droit d'aînesse d'Ismaël. Oh, il y a bien des raisons, on donne des explications pour cela, mais il y a sur deux générations un cadet qui supplante l'aîné. Et Joseph arrive dans cette famille. Et à nouveau, il y a un cadet qui supplante l'aîné. Et lui-même aura deux fils où le cadet supplantera l'aîné. Avec une différence toutefois. Alors essayez de faire le tableau de tout cela. Dans mon travail, on a ce qu'on appelle un outil qui s'appelle l'approche systémique. On étudie la vie d'une personne en étudiant le système dans lequel il vit, en voyant les liens entre les parents, entre les parents et les enfants, entre les parents et leurs propres parents, avec les oncles. Quelle galère ce serait de faire ça avec la famille de Jacob. Joseph nous est présenté comme la postérité de Jacob. Et Joseph a une particularité, c'est qu'il n'est pas le préféré simplement parce que le père, comme dans les générations passées, s'appuie sur des raisons humaines de le préférer, mais parce que dans sa personnalité, il y a des choses qui le distinguent de ses frères. La première chose dont on nous a parlé à propos de Joseph, c'est qu'il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Oh, quand on regarde cela et qu'on lit ce verset-là, on se dit quel intérêt de favoriser quelqu'un qui est un rapporteur. Hein ? On se dit, en quoi est-ce que c'est glorieux de rapporter les propos de ses frères ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'attitude, et on le verra dans la suite des chapitres qui concernent Joseph, ce qui le caractérise, c'est que c'est un homme qui est conduit par l'esprit. Quelque temps après, il va parler de deux rêves qu'il a faits. L'un où il s'adresse à ses frères, l'autre où il s'adresse à son père, au verset 5 et au verset 9. Ce qui est caractéristique, y compris après, lorsqu'il se retrouve face à un maître et à sa femme qui l'engage à avoir des relations sexuelles avec lui, à la fois aussi quand il se trouve en prison, c'est un homme qui a décidé de se laisser conduire par l'esprit. Nous sommes, nous, aujourd'hui, dans le temps encore de la Pentecôte. Est-ce que nous sommes, nous aussi, des Joseph en puissance ? Des hommes et des femmes qui sont capables de dire « Je veux me laisser conduire par l'esprit ». Joseph est quelqu'un qui dit « Lorsque ses frères ont des propos qui ne sont pas glorieux pour la maison de son père ou pour le nom de son père, il le dit ». Dire les choses, dire ce que l'esprit m'invite à dire et à être. Nous avons entendu tout à l'heure un message, une parole qui s'adresse à quelqu'un où Dieu dit « Prépare-toi, tu vas être porteur de ma parole. Je vais te conduire à être un témoin. » Est-ce que nous pouvons, comme Joseph, nous dire « Seigneur, de moi-même, qu'est-ce que je peux porter ?» Qu'est-ce que je peux être ? Là, ce verset nous dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Ça n'a pas dû arranger les affaires de Joseph dans sa fratrie. Je pense qu'il serait bien, parfois, que l'Église ne soit pas bien vue à cause des positions qu'elle a à prendre concernant ce qui se passe dans le monde. Nous avons entendu quelques paroles de Laurent concernant le comportement qu'il peut y avoir à utiliser des événements. Que dit l'Église de cela ? On l'a entendu ici, mais que dit l'Église de cela ? De la manière dont les choses, les événements sont utilisés pour glorifier des pratiques, pour mettre en avant des choses qui ne sont pas favorables aux yeux de Dieu. Et dans notre vie quotidienne, dans notre témoignage, dans ce que nous disons et sommes, est-ce que nous pouvons être des Joseph qui s'affirment et qui disent « Ceci n'est pas bon, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. » Est-ce que nous pouvons être habités du même esprit ? En même temps, on s'aperçoit dans ce texte que Joseph fait des rêves, il les rapporte à ses frères qui le haïrent davantage. Ça veut dire que parfois, être porteur du message de Dieu, de la pensée de Dieu, ça ne génère pas la bienveillance. Mais qu'est-ce qui est important ? Être ce que je dois être, là aussi, de manière équilibrée, il ne s'agit pas de venir avec une masse pour taper sur la tête des non-chrétiens, mais d'être véritablement dans son attitude, dans sa manière de vivre et de parler conforme à la pensée de Dieu. ses frères le haïrent davantage. Il leur dit pourtant son rêve. Nous nous trouvions au milieu des champs, alliés des gerbes, et voici que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. On comprend mieux la colère des autorités juives quand Christ s'est révélé, quand il a dit qui il était, quand il proclame que ce temple peut être détruit en 3 jours et qu'il puisse être reconstruit en parlant de lui-même et de sa résurrection. Comment la colère juive, des autorités juives, a été à ce moment-là au summum. Ses frères l'ont haï. Et quand son père lui-même entend le deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, il le raconta à son père et ses frères. Et son père lui-même était dans l'incompréhension. Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Son père garda le souvenir. Et garda en lui-même le souvenir en se disant, tiens, ça c'est quelque chose qu'il faut que je garde. Ça fait penser à Marie, qui, lorsque Christ s'est révélé, je ne comprends pas, mais elle garda en son cœur. On voit les analogies, la manière dont la révélation du Fils bien-aimé se fait. Lorsque la colère de ses frères est au summum, à un moment donné, Jacob dit à Joseph, viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Comment ne pas penser à cet appel qui a retenti dans le ciel lorsque le Père a dit au Fils, voilà, il est temps d'aller vers tes frères. Être rassemblé autour de la table, c'est se souvenir que ce Dieu, cette parole éternelle, s'est incarnée et a volontairement dit au Père, « Me voici, envoie-moi. » On a cet appel-là dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, où le Dieu dans son ciel de gloire dit, « Qui enverrai-je? Qui parlera pour moi ?» Et Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Et la période d'Ésaïe n'était pas une période facile. C'était une période de séparation du peuple de Dieu d'avec son Dieu, d'Israël. Et c'était un temps là aussi où ceux qui parlaient au nom de Dieu n'étaient pas bien vus. Israël dit à Joseph, je veux t'envoyer vers eux. Il connaissait la colère qui habitait ses fils vis-à-vis de Joseph. Il ne l'ignorait pas. Et pourtant, il lui dit, tu vas aller les voir et tu vas aller voir si leur paix va bien, s'ils sont en paix. Le désir de Jacob, c'est de savoir au niveau de leur paix. C'est ça la formule qui est utilisée. Va donc voir comment est leur paix. Et ensuite, il dira, tu m'en rapporteras des nouvelles. En clair, en hébreu, c'est « tu me rapporteras leurs paroles ». J'envoie ma parole vers eux et tu me renverras leurs paroles à eux. Comment est leur paix? Et vous savez, quand Christ est venu vers nous, tout le prologue de l'évangile de Jean est là pour nous porter ce même message. C'est un Dieu qui dit « comment va ta paix ?» Et ta paix, elle n'est possible que dans une relation retrouvée entre moi et toi, entre moi, ton père, et toi, mon enfant. Je t'envoie, mon fils bien-aimé, pour voir comment va ta paix. L'évangile de Jean nous cite souvent ce mot, cette parole de la paix. Je suis venu pour te donner ma paix. Et il souffla sur eux. Le Fils bien-aimé est envoyé pour que cette paix existe à nouveau. Renvoie-moi ta parole. Quelque part, tu es ma parole pour eux. Renvoie-moi leur parole C'est important que je sache. Oh, le petit bétail, les histoires des moutons qui vont paître, etc. C'est important, certes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ce que tu vis au quotidien, concrètement. Ce qui est important, c'est comment va ta paix. Et aujourd'hui, même si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Dieu, si le Christ a toute sa place et son salut dans notre vie, la question de Dieu est toujours présente. Comment va ta paix? Quelle est la relation que tu as avec moi? Qu'est-ce qui fait que tu es en paix ou que tu ne l'es pas? Et qu'est-ce que tu fais pour retrouver cette paix avec ton Dieu, avec ton Père? Alors je t'envoie, et le Fils dit, me voici. Comme Christ a dit, de la même manière, me voici. La parole qui est revenue à Jacob, c'est une tunique ensanglantée. C'est ça qui est revenu. La parole des fils et des frères de Joseph, ça a été de retourner à Jacob une tunique multicolore, tachée de sang. Et au pied de la croix, les soldats s'emparèrent de sa tunique. Et comme elle était unique, sans couture, parfaite, il la jouait rodée, telle que c'était annoncé dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Jacob a eu le droit aussi à cette tunique qui lui est revenue, tachée de sang. Voilà la parole que nous donnons à notre Père en n'acceptant pas cette parole de paix qui vient vers nous. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement un message pour les non-croyants, ça l'est aussi pour nous aujourd'hui. Quand nous disons non à Dieu, quand nous n'acceptons pas que sa paix prenne toute sa place en nous, nous sommes, nous aussi, à renvoyer au Père le cadeau et la parole qu'il nous a transmise. C'est une grande responsabilité que de dire non à Dieu. Ça peut coûter cher. Le livre de la Genèse se passe sur la période de Joseph, sur des années et des années. Il ne faut pas croire qu'il a été mis dans le puits, le lendemain il était chez Potiphar, le surlendemain il était en prison, et quatre jours après, il est entré au service de Pharaon. Ça a duré des décennies, des années. Et pendant ce temps-là, qu'en est-il des 11 autres frères? Au moment où Jacob entend la perte de son fils bien-aimé, on a l'impression que tout est suspendu. Il n'y a plus rien qui se vive dans cette famille. Jacob est dans le deuil, et les frères, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Ils vivotent. Ils vivent au gré des événements qui se vivent dans la région. Il y a juste une petite parenthèse étrange. Lorsque vous lisez le chapitre 38, une fois que Joseph est vendu, puisqu'ils étaient sur un endroit où passaient les caravanes de marchands, eh bien, juste après qu'il soit vendu, il y a un épisode avec Judas et Tamar. Vous rappelez cette histoire? Judas qui a donné un de ses fils à une femme qui s'appelle Tamar, et puis le fils meurt, et puis il lui redonne le deuxième pour lui permettre d'avoir une postérité, puis le deuxième meurt, et puis le troisième, il dit, oula, je le garde pour moi, et il fait semblant d'oublier Tamar dans un coin. Tamar se déguisera en prostituée, ira vers Jacob Judas qui ne la reconnaît pas, et il naîtra de cette union deux enfants. Ouais. C'est une parenthèse étrange. Sauf que cette parenthèse, on la retrouve par l'interprétation du livre de Ruth, c'est une parenthèse qui va donner naissance à un des ancêtres de Jésus-Christ, Boaz. Hein ? C'est pas une parenthèse qui est là par hasard. En fait, toute l'histoire de Joseph nous parle du Christ à venir. Et cette parenthèse nous parle du Christ à venir. Lorsque Joseph part chercher ses frères, il est dit qu'il est allé les chercher à 60 km de chez lui. Il a fait de la route. 60 km. De la même manière que le fils bien-aimé du Père a fait de la route de son ciel de gloire pour venir vers nous. Et il est dit que à Sichem, endroit où ils auraient dû être, il ne les a pas trouvés. Alors il a poussé encore plus loin. Il a fait 15 km de plus pour aller jusqu'à Dothan. Dothan en hébreu, ça veut dire loi et coutume, ceux qui sont dans la loi. C'est-à-dire qu'il est allé chercher là où ils auraient dû être et il les a trouvés au milieu de la loi et des coutumes. Un peu comme parfois nous pouvons nous aussi nous laisser embarquer par la loi, par les habitudes, par ce qui nous semble être juste, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nos lois, nos règles, nos statuts d'association, ou de ceci ou de cela. Il est allé jusqu'à aller les chercher au milieu des lois, comme il l'a fait pour le peuple juif qui était sous la loi, mais comme il le fait pour nous qui parfois nous enfermons sous nos propres lois. Voilà ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est juste. Mais Dieu ne nous attend pas là. Mais il va venir nous chercher jusque-là. Il viendra nous chercher là où nous sommes. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph a fait avec ses frères. Dieu vient les chercher. Je ne vais pas aller plus loin sur ces réflexions sur la personnalité, le rôle, le message qu'il y a à tirer de la personne de Joseph. Mais je vous invite à lire ce texte sur 13 chapitres qui nous parle d'un homme qui a été conduit par l'Esprit. Et il a attendu. C'est un homme qui a une patience dans sa consécration dont nous aurions à nous inspirer. Il n'a pas vécu les choses comme ça de manière rapide, mais il a attendu le temps de Dieu à chaque étape de sa vie. Parfois, nous sommes tellement impatients. Nous voudrions tellement que Dieu agisse de telle, telle, telle ou telle manière. Maintenant, Joseph a attendu. Et à chaque fois qu'il a attendu, Dieu l'a formé. Il l'a formé lorsqu'il était chez Potiphar. Il l'a formé dans sa foi. Il y a un chapitre où un tout petit chapitre où il est dit à, je crois, 5 reprises, le pharaon vit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Vit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Le pharaon vit. Ça s'est répété dans un même chapitre à 4 ou 5 fois. Est-ce que nous sommes dans une attitude par rapport à Dieu à nous laisser former, transformer, pour que le pharaon de ce monde dise « L'Esprit de Dieu est sur lui. Où trouverons-nous quelqu'un comme lui ?» Nous avons des leçons à tirer de cette parole pour marcher, avancer, nous laisser transformer. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que ta parole nous invite à être et à devenir. Nous sommes comme ce Joseph, des fils bien-aimés. Je ne veux pas douter de ton amour. Nous ne voulons, ne pouvons pas douter de ton amour pour nous. Tu nous as revêtus de vêtements nouveaux, à l'instar de Joseph. Tu nous as équipés de ton Esprit Saint, comme lui. Tu nous donnes d'avoir une révélation de ce que tu veux faire. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où nous te servons, où nous sommes, donne-nous la patience de nous laisser transformer par toi, afin d'être véritablement des témoins de ta grâce pour ce monde. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, mais nous voulons aussi et surtout que tu vives en nous, chacun pour notre part. Là aussi, que nous puissions, comme Joseph, te dire « Oui, me voici. » Amen. Amen. Eh bien, nous voulons terminer ce